En cette ère, qui sont ceux qui recevront le Saint-Esprit de Dieu comme un don? Actes, chapitre 8, versets 14 à 24. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Simon, le magicien, qui apparaît dans le chapitre 8 des Actes est considéré comme une figure négative importante dans l'histoire de l'Église primitive. Son influence peut être comprise sous trois aspects majeurs. L'apparition de Simon est le défi pour l'Église primitive. Selon Actes, chapitre 8, versets 9 à 24, Simon était un homme qui pratiquait la magie en Samarie et était très respecté par le peuple. Par la prédication du diacre Philippe, il en vint à croire en Jésus-Christ et fut même baptisé. Cependant, lorsqu'il vit que le Saint-Esprit était accordé, il offrit de l'argent et dit, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Actes, chapitre 8, verset 19. C'était une attitude erronée qui considérait le don du Saint-Esprit non pas comme un don sacré de Dieu, mais comme un pouvoir qui pouvait être échangé contre de l'autorité humaine et de l'argent. Simonie, un mot d'avertissement de l'Église. L'acte de Simon fut fortement réprimandé par l'apôtre Pierre. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Actes, chapitre 8, versets 20 à 21. Après cet incident, dans l'histoire de l'Église, l'acte d'essayer d'acheter une charge ou un don avec de l'argent en vint à être appelé simonie, et il fut à plusieurs reprises signalé comme un problème majeur dans l'histoire de l'Église médiévale. En d'autres termes, Simon devint par la suite une cause importante pour mettre en garde contre la corruption et la dégénérescence dans l'Église. La semence de la pensée hérétique. Selon les archives des premiers pères de l'Église, par exemple, Eusèbe et Irénée, Simon ne s'est pas arrêté à une simple erreur personnelle, mais est connu comme une figure associée à la forme précoce du mouvement gnostique ultérieur. Il a prétendu être la grande puissance et s'est déifié, et en combinant cela avec des idées gnostiques, il a été évalué comme étant devenu la racine d'un mouvement hérétique. De ce fait, Simon peut être considéré comme quelqu'un qui a exercé une influence en dehors de l'Église en propageant la confusion spirituelle et la pensée hérétique. Simon a laissé une leçon claire au sein de l'Église primitive, la grâce de Dieu ne peut être achetée avec de l'argent. De plus, son attitude est devenue un exemple qui a plus tard mis en garde contre la corruption de l'Église catholique, telle que la vente des charges et la poursuite du pouvoir, et en même temps, il a été considéré comme le point de départ de pensées hérétiques telles que le gnosticisme. Par conséquent, Simon n'était pas un modèle positif pour l'Église primitive, mais plutôt une figure contre laquelle il fallait se prémunir complètement afin de préserver l'identité et la pureté de l'Église. Dans Actes, chapitre 8, versets 14 à 24, nous pouvons voir que lorsque Pierre et Jean ont appris que le peuple de Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur ont imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Cependant, cet homme nommé Simon, qui avait fait de la magie sa profession, a voulu devenir lui-même une telle personne quand il a vu l'œuvre du Saint-Esprit se manifester à travers Philippe. Simon a finalement essayé de donner de l'argent à Pierre et Jean pour recevoir ce pouvoir. Le magicien Simon voulait aussi devenir une personne qui croyait en Jésus et recevait le Saint-Esprit. Son cœur n'était pas pur, cherchant le salut en croyant en Jésus. Plutôt que d'être intéressé par le fait de croire en Jésus dans son cœur pour obtenir le salut, il était un homme qui cherchait à recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour acquérir des richesses matérielles. Le livre des Actes relate l'œuvre du Saint-Esprit conjointement avec les disciples de Jésus. Nous appelons aussi le livre des Actes les Actes du Saint-Esprit. À cette époque, le peuple de Samarie a accepté la parole de Dieu que Philippe prêchait et a reçu Jésus comme son sauveur. Cependant, ils étaient ignorants concernant le Saint-Esprit. Par conséquent, Pierre et Jean sont descendus vers eux et leur ont imposé les mains sur la tête afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu prêchèrent la parole de l'Évangile au sujet de Jésus-Christ même en Samarie. En ce temps-là, le peuple de Samarie acceptait la parole de Dieu. On pouvait dire que c'était un événement miraculeux, car les Juifs étaient ceux qui avaient gardé leur distance avec les gens vivant dans la région de Samarie. Cependant, quand Philippe alla dans la région de Samarie et prêcha la parole de l'Évangile de Dieu, ils ouvrirent les portes de leur cœur et devinrent ceux qui acceptèrent Jésus comme leur sauveur. Jésus devint le sauveur qui lava leurs péchés en recevant le baptême de Jean et en ayant ainsi les péchés du monde transférés sur lui. Le Saint-Esprit était l'Esprit qui descendit sur ceux qui croyaient que le Seigneur, après avoir reçu le baptême de Jean et avoir eu les péchés du monde transférés sur son corps, fut cloué sur la croix, versa son sang et ressuscita d'entre les morts. Par conséquent, à ceux qui croient en la parole de l'Évangile de la vérité que Jésus est le Sauveur de l'humanité, il donna la bénédiction de recevoir la rémission des péchés et le Saint-Esprit en cadeau. L'Église catholique affirme que l'on reçoit le Saint-Esprit par le sacrement de la confirmation. Le sacrement de la confirmation est-il lié à l'Église pentecôtiste aujourd'hui ? Le sacrement de la confirmation et le mouvement pentecôtiste d'aujourd'hui n'ont pas de continuité institutionnelle directe, mais on peut considérer qu'ils ont des parallèles et des liens autour de l'expérience du Saint-Esprit. Premièrement, le sacrement catholique de la confirmation. Après le sacrement du baptême, l'Église a institutionnalisé l'expérience du Saint-Esprit et l'a établie comme l'un des sacrements. Dans ce processus, l'évêque impose les mains et verse de l'huile sainte sur la tête, enseignant que les croyants reçoivent ainsi la plénitude du Saint-Esprit. Ainsi, la présence et la garantie du Saint-Esprit en sont venues à dépendre de l'acte institutionnel de l'Église, à savoir, la procédure de réception de la confirmation. En conséquence, l'expérience du Saint-Esprit en est venue à avoir la caractéristique d'être donnée seulement de manière limitée au sein du processus institutionnel appelé le sacrement. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit dans le mouvement pentecôtiste. Au début du XXe siècle, en particulier à partir du réveil d'Azusa Street de 1906, le mouvement du Saint-Esprit a commencé à se répandre sérieusement. Ce mouvement, contrairement au baptême que Jésus a reçu de Jean ou à la confirmation institutionnelle traditionnelle de l'Église, a mis l'accent sur le baptême du Saint-Esprit comme une expérience personnelle directe. La présence du Saint-Esprit était comprise comme se manifestant à travers des phénomènes charismatiques tels que le parler en langue, la prophétie et la guérison, et à travers de telles expériences, les croyants en sont venus à avoir l'assurance que le Saint-Esprit était venu sur eux. Dans ce courant, le baptême dans le Saint-Esprit n'était pas simplement identifié à l'événement du salut, mais était souvent considéré comme une autre expérience spéciale donnée après le salut, une deuxième expérience. Troisièmement, point commun. En mettant l'accent sur l'expérience du Saint-Esprit après le sacrement du baptême, la confirmation traditionnelle de l'Église et le mouvement pentecôtiste du début du XXe siècle montrent des similitudes structurelles bien qu'ils empruntent des chemins différents. La confirmation a été établie comme un sacrement où le Saint-Esprit est reçu par l'imposition des mains d'un évêque et l'onction d'huile sainte dans le cadre institutionnel de l'Église. Le mouvement pentecôtiste, d'autre part, a adopté l'expérience personnelle directe du baptême dans le Saint-Esprit et les phénomènes charismatiques comme le parler en langue, la prophétie et la guérison comme preuve de la présence de l'Esprit. Bien que l'un soit un sacrement institutionnalisé et l'autre une expérience centrée sur les dons spirituels, les deux traditions partagent la caractéristique structurelle commune de séparer le salut, baptême et l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, comprenant ainsi l'expérience du Saint-Esprit comme une étape distincte dans le cheminement de la foi. Quatrièmement, différence. La confirmation et le mouvement pentecôtiste soulignent tous deux l'expérience du Saint-Esprit après le baptême, mais ils montrent des différences significatives dans leur fondement et leur contexte. La confirmation était comprise comme étant reçue par l'onction d'huile et l'imposition des mains administrées par l'évêque, s'appuyant sur l'autorité de l'Église et des sacrements. C'était une méthode normative pour garantir la présence du Saint-Esprit au sein de l'institution de l'Église. En revanche, le mouvement pentecôtiste a mis l'accent sur l'expérience de foi individuelle, prenant les phénomènes charismatiques tels que le parler en langue comme preuve d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a donné la priorité à l'expérience directe de l'œuvre de l'Esprit plutôt que de s'appuyer sur l'autorité institutionnelle de l'Église. Malgré ces différences, les deux traditions possèdent la similitude structurelle de séparer le baptême et l'expérience du Saint-Esprit, la comprenant comme une autre expérience après le salut. Par conséquent, la confirmation et le pentecôtisme peuvent être décrits comme deux contextes différents qui présentent l'expérience du Saint-Esprit, la confirmation au sein de la tradition institutionnelle et sacramentelle du catholicisme, et le pentecôtisme au sein du courant des mouvements de réveil et du charismatisme. Cinquièmement, lien théologique. D'un point de vue historique de l'histoire de l'Église, la compréhension de l'Église pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit n'est pas soudainement apparue de nulle part dans les mouvements de réveil du XXe siècle, mais partage plutôt la même lignée que le désir continu de l'expérience du Saint-Esprit qui avait persisté depuis le Moyen Âge. Après la Réforme, alors que le protestantisme affaiblissait progressivement la pneumatologie centrée sur les sacrements, à savoir, la compréhension basée sur le baptême et la confirmation, les mouvements néo-évangéliques et pentecôtistes se sont développés comme des mouvements de foi qui cherchaient à combler ce vide en faisant l'expérience directe du Saint-Esprit. Finalement, tout comme la confirmation parle institutionnellement de la seconde expérience du Saint-Esprit après le baptême, le mouvement pentecôtiste montre la même structure à un niveau individuel. En d'autres termes, en mettant l'accent sur l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit à travers l'expérience du baptême du Saint-Esprit après avoir reçu le salut par le baptême, la compréhension pentecôtiste du Saint-Esprit peut être vue comme ayant hérité de la confirmation de l'Église d'une manière personnelle et expérientielle. Conclusion, les doctrines de la confirmation et du baptême du Saint-Esprit de l'Église pentecôtiste n'ont pas de ligne de succession directe, mais elles sont similaires en ce qu'elles ont toutes deux une structure double qui distingue entre le salut et l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. La différence est que le sacrement institutionnel implique aussi les dons expérientiels du Saint-Esprit. Dans le catholicisme, il est dit que recevoir la confirmation renforce sa foi avec l'aide du Saint-Esprit. Cependant, la parole de la Bible ne le dit pas. La Bible dit que l'on reçoit le Saint-Esprit en cadeau en même temps que la rémission des péchés. Ils ont établi la doctrine de la confirmation en se basant sur l'événement où Pierre et Jean ont imposé les mains à ceux qui croyaient en Jésus et où ils ont reçu le Saint-Esprit. Cette doctrine est basée sur les paroles d'Actes, chapitre 8, versets 14 à 24. Cependant, la pratique actuelle d'oindre la tête de ceux qui croient en Jésus et d'accomplir la confirmation est un acte insensé qui mécomprend le sens originel de la Bible. Ceux qui croient en de telles doctrines ne sont pas limités à l'Église catholique, mais sont largement répandus même au sein du christianisme. En fin de compte, nous devons réaliser que des gens comme Simon le magicien continuent d'apparaître même au sein du christianisme aujourd'hui. De plus, nous devons noter le fait que de nombreuses personnes aujourd'hui croient aussi que le Saint-Esprit est reçu par l'imposition des mains dans le courant du plein évangile. La tendance au sein du christianisme aujourd'hui selon laquelle les gens reçoivent le Saint-Esprit lorsqu'ils reçoivent la prière avec l'imposition des mains s'est presque établie comme une sorte de doctrine officielle. À propos de la foi pour recevoir le Saint-Esprit dont parle Paul Sidjon. La parole de la Bible témoigne clairement de la foi pour recevoir le Saint-Esprit. C'est la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est le fait que par le Seigneur Jésus-Christ, qui a été baptisé par Jean et a ainsi pris les péchés du monde sur son propre corps, a été crucifié et est mort, puis est ressuscité, non seulement nous avons une eau péchée lavée, mais nous avons aussi reçu le don du Saint-Esprit. Actes, chapitre 2, versets 38 à 40. L'Ancien et le Nouveau Testament disent constamment que la manière pour une personne de recevoir la rémission des péchés est de croire en la parole de l'Évangile selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a porté les péchés du monde, et est allé à la croix. Et il est écrit qu'en même temps que l'on reçoit la rémission des péchés, on reçoit le Saint-Esprit en don. Actes, chapitre 2, verset 38. Par conséquent, nous devons croire que Jésus a été baptisé par Jean, a pris les péchés du monde sur lui-même, et a été crucifié pour devenir le sauveur des pécheurs. Le Saint-Esprit de Dieu est un don qui vient sur ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur. Pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit comme don de Dieu, nous devons croire que Jésus, par le baptême qu'il a reçu de Jean, a pris sur lui les péchés du monde et a été crucifié, versant son sang pour nous. Alors nous recevrons la rémission des péchés et le Saint-Esprit en don. Actes, chapitre 2, versets 38 à 39. En d'autres termes, pour que nous recevions le Saint-Esprit comme un don dans nos cœurs, nous devons croire une fois de plus que Jésus, en étant baptisé par Jean, a pris les péchés du monde sur lui-même, a été crucifié, a versé son sang, et est ressuscité des morts comme notre Sauveur. Néanmoins, les chrétiens d'aujourd'hui croient à tort qu'ils doivent recevoir l'imposition des mains dans la prière pour être remplis du Saint-Esprit. Nous devons réformer de telles croyances erronées et croire en la vraie parole de vérité attestée par la Bible. De telles personnes, sans connaître la vérité de l'Évangile selon lequel Jésus a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde, sont encore celles qui essaient de recevoir le Saint-Esprit par des méthodes humaines. Ce que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit est un don qui vient sur ceux qui croient en Jésus, qui a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde, comme leur Sauveur. Un don signifie recevoir quelque chose qui est donné sans prix. Lorsque nous, dans nos cœurs, croyons au baptême que Jésus a reçu de Jean et à l'œuvre de son sang comme la parole de l'Évangile qui a lavé nos péchés, et que nous recevons la rémission des péchés, Dieu nous donne le Saint-Esprit en don. C'est précisément cette foi de croire en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui est la foi par laquelle nous recevons la rémission des péchés et le Saint-Esprit en don. En ce temps-là, les Samaritains manquaient de connaissance de la vérité. Ainsi, lorsque les apôtres ont examiné leur foi en la réception de la rémission des péchés et leur ont imposé les mains sur la tête, ils ont pu voir que le Saint-Esprit était venu dans leur cœur. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, parmi ceux qui croient en Jésus comme leur Sauveur, il y en a beaucoup qui souffrent de confusion dans leur cœur parce qu'ils manquent de connaissances sur la vérité de la réception du Saint-Esprit. Ils pensent, « Pourquoi ma vie de foi ne se déroule-t-elle pas bien? Pourquoi ne puis-je pas suivre la parole du Seigneur avec foi de tout mon cœur ?» Et beaucoup de ces personnes pensent que, parce que leur foi est insuffisante, elles sont devenues celles qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit en don. Pour que nous recevions le Saint-Esprit en don, nous devons être de ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant que Jésus, en étant baptisé par Jean et en prenant sur lui les péchés du monde sur son corps, est devenu notre Sauveur par le sang qu'il a versé, sa mort et sa résurrection sur la croix. Nous devons connaître le fait que lorsque nous avons reçu la rémission de nos péchés, nous recevons alors le Saint-Esprit comme don de Dieu. Par conséquent, même si vous désirez devenir quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, sans la connaissance et la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit en don. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui prétendent accomplir le don de guérison. Cependant, même si vous désirez recevoir l'imposition des mains de leur part pour recevoir le Saint-Esprit, si l'état de votre propre cœur n'a pas reçu la rémission des péchés, cela ne sert absolument à rien. Pour que vous receviez le Saint-Esprit, vous devez avoir la foi qui croit que le Seigneur, en étant baptisé par Jean et prenant ainsi sur lui les péchés du monde, est devenu notre Sauveur éternel par le sang qu'il a versé sur la croix. Pour que nous connaissions et croyions en la justice de Jésus et devenions ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans nos cœurs, nous devons avoir rencontré le Seigneur qui a été baptisé par Jean, a pris les péchés du monde sur lui, est mort sur la croix, et est ressuscité des morts. Nous devons connaître et croire en la connexion entre l'imposition des mains et le baptême dont il est parlé dans l'Ancien et le Nouveau Testament à travers la parole de Dieu. Cependant, recevoir l'imposition des mains de ceux qui prétendent accomplir le don de guérison aujourd'hui n'est pas différent des croyances superstitieuses dont on parle dans le monde. Nous pouvons devenir des personnes nées de nouveau en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ceux qui peuvent savoir que le Saint-Esprit habite dans leur cœur sont ceux qui connaissent et croient en la vérité que Jésus a été baptisé par Jean, a pris les péchés du monde sur lui, et les a lavés. Vous et moi ne devons pas devenir ceux qui sont trompés par l'illusion des imposteurs qui possèdent des esprits mauvais. C'est parce que le diable œuvre déjà puissamment en ceux qui ne croient pas en la parole de l'Évangile de la justice de Dieu. Jésus, en étant baptisé par Jean, a pris les péchés du monde sur son propre corps. Et en étant crucifié, en mourant et en ressuscitant des morts, il a maintenant accordé le salut éternel et le Saint-Esprit en don à ceux qui croient. De plus, comme preuve que nous avons été sauvés, il a donné la rémission des péchés et le Saint-Esprit ensemble en don. Quelle est la signification de ce qui est dit dans Actes, chapitre 2, versets 36 à 38, « Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Actes, chapitre 2, verset 36. En entendant ces paroles, les Juifs eurent le cœur vivement touché, tremblant, dire, « Que ferons-nous ? » À ce moment-là, Pierre dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes, chapitre 2, verset 38. Cela signifie que Jésus-Christ, qui a reçu le baptême de Jean et a ainsi pris sur lui les péchés du monde, a été crucifié et ressuscité des morts, nous a permis de recevoir la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Cela signifie qu'en croyant à la vérité que Jésus a pris sur lui les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, nous en sommes venus à recevoir la rémission des péchés. Par conséquent, lorsque nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela signifie que nous avons accepté la rémission des péchés par la foi en cette vérité, que Jésus a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, a été crucifié, est mort et est ressuscité des morts, et que nous sommes baptisés en croyant en cette vérité. Comme nous le savons, c'est une promesse que le Saint-Esprit est donnée en don à ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Le Saint-Esprit vient résider dans le cœur de ceux qui croient au message de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, parce qu'ils ont reçu la rémission des péchés, et le Saint-Esprit fournit la confirmation finale du salut. En d'autres termes, la rémission des péchés est l'assurance du salut, et nous pouvons dire que c'est la qualification pour recevoir le don du Saint-Esprit. La repentance ne consiste pas simplement à verser des larmes, mais se réfère à la foi d'abandonner sa propre justice et d'accepter la rémission des péchés dans le cœur en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Jésus-Christ, recevant ainsi le Saint-Esprit en don. C'est la vérité que lorsque nous croyons en Jésus, qui a reçu le baptême de Jean, a offert le sacrifice sur la croix et est ressuscité des morts, nous en venons à recevoir la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. La rémission des péchés peut être reçue lorsque nous croyons, en même temps qu'à la croix, que Jésus a reçu le baptême de Jean et a pris sur lui les péchés du monde, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Comment doivent vivre ceux qui ont reçu la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit ? La question, comment doivent vivre ceux qui ont reçu la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit ? Parle de la vie de foi des saints qui ont été sauvés des péchés de ce monde. C'est une vérité immuable que le Saint-Esprit vient sur ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Selon Actes, chapitre 2, verset 38, il est dit que ceux qui ont reçu la rémission des péchés reçoivent le Saint-Esprit en don. Par conséquent, nous devons connaître le fait que le Saint-Esprit vient sur ceux qui croient que le Seigneur a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, a été crucifié, et est devenu notre Sauveur. Par conséquent, les saints doivent s'examiner eux-mêmes, en se demandant, est-ce que je crois vraiment que Jésus a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et est allé à la croix pour verser son sang et devenir le Sauveur ? Nous devons savoir qu'au moment même où nous recevons la rémission des péchés, nous sommes devenus ceux qui reçoivent le Saint-Esprit en don. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet, à nous qui croyons, de vivre puissamment comme témoins de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes, chapitre 1, verset 8. Nous en sommes venus à recevoir la rémission des péchés en croyant en l'œuvre que Jésus, en recevant le baptême de Jean, a porté nos péchés une fois pour toutes et a versé son sang sur la croix. En conséquence, ayant reçu le Saint-Esprit en don, nous avons été établis pour vivre comme témoins de l'Évangile. Vivre en ayant reçu la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit signifie vivre une vie qui proclame l'Évangile de l'eau et de l'Esprit selon la volonté du Christ. Comment les disciples de Jésus sont-ils devenus ceux qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? La raison pour laquelle la Pentecôte devait être exactement le 50e jour contient une signification spirituelle profonde au-delà d'un simple calcul de date. Premièrement, le mot « Pentecôte » lui-même provient du mot grec « Pentecôte », qui signifie le 50e jour. Dans l'Ancien Testament, Dieu leur a commandé de compter cette semaine, c'est-à-dire 49 jours, à partir du lendemain de la Pâque, la fête des prémices, et de célébrer le jour suivant, le 50e jour, comme la fête des semaines ou Pentecôte. C'était une fête pour rendre grâce à Dieu pour les premiers fruits de la moisson, et aussi, dans la tradition juive, ce jour est considéré comme le jour où Moïse a reçu la loi de Dieu sur le mont Sinaï après l'événement de l'Exode. Cependant, ce moment, le 50e jour, coïncide précisément avec un événement historique rédempteur très important dans le Nouveau Testament. Avant la Pâque, Jésus a reçu le baptême de Jean, par lequel les péchés du monde ont été transférés sur son corps, devenant ainsi notre Sauveur par la foi qui croit au Seigneur qui a été crucifié, a versé son sang et est ressuscité de la mort. Parce que Jésus a reçu le baptême de Jean et que les péchés du monde lui ont été transférés, il a dit à l'avance aux disciples qu'il serait crucifié et ressusciterait des morts, et a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Actes, chapitre 1, verset 4. Exactement 50 jours après le jour où Jésus a reçu le baptême de Jean et est ressuscité de la mort sur la croix, alors que les disciples étaient rassemblés et priaient dans la chambre haute de Marc, le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu. Ceci est devenu le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte mentionnée dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était le jour de l'offrande des prémices de la moisson, mais à l'ère du Nouveau Testament, elle est devenue le jour de la descente du Saint-Esprit. De plus, si la Pentecôte de l'Ancien Testament était le jour où la loi a été donnée, la Pentecôte du Nouveau Testament est devenue le jour où le Saint-Esprit a été donné. La loi du salut, qui n'est pas la loi gravée sur des tables de pierre par Dieu, était maintenant gravée sur le cœur des gens par le Saint-Esprit, et cela parle de la transition de l'alliance de la loi à la nouvelle alliance de l'Esprit. Le 50e jour, qui est le jour après 7 fois 7, soit 49 jours, signifie un nouveau jour de grâce. Par conséquent, Dieu a fait de ce jour la fête de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, et en choisissant ce jour pour envoyer le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, il a parlé d'une nouvelle ère s'ouvrant dans le calendrier de Dieu, l'âge de l'Esprit. Finalement, la raison pour laquelle la Pentecôte devait avoir lieu le 50e jour est que l'histoire de la rédemption de Dieu n'est complètement accomplie que lorsque deux événements décisifs, le don de la loi dans l'Ancien Testament et la descente du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, se produisent précisément ce jour-là. Ce jour, par conséquent, relie les prémices de la moisson aux prémices du salut, les tables de pierre de la loi aux tables de cœur de l'Esprit, et l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, montrant que c'était une providence du salut méticuleusement alignée sur le plan de Dieu. Dieu a tenu sa promesse précisément. Ainsi, le jour de la Pentecôte, les disciples furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à prêcher hardiment l'Évangile. À partir de ce jour, l'ère de la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a continué. Nous avons pu recevoir la rémission des péchés en croyant que Jésus est le Sauveur qui a pris les péchés du monde sur son corps par le baptême de Jean, a été crucifié, a versé son sang, et est ressuscité des morts. Et nous devons nous souvenir que ceux qui croient au message de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont devenus les bénéficiaires du don du Saint-Esprit en même temps qu'ils recevaient la rémission des péchés dans leur cœur. Et le jour de la Pentecôte, il y eut l'œuvre du Saint-Esprit, qui descendit sur ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Cependant, aujourd'hui, nous devons connaître le fait que le Saint-Esprit est déversé comme un don sur ceux qui croient à l'Évangile prêché par les apôtres, c'est-à-dire, sur ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus, qui a reçu le baptême de Jean, a eu les péchés du monde transférés sur lui, et a été crucifié. Ceux qui vivent aujourd'hui au 21e siècle doivent recevoir la rémission des péchés en croyant en la parole de l'Évangile que Jésus a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et les a lavés. Nous pouvons devenir les bénéficiaires du don du Saint-Esprit lorsque nous recevons la rémission des péchés en croyant au message de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous pouvons devenir ceux qui reçoivent la rémission des péchés et le Saint-Esprit dans nos cœurs en croyant au baptême de Jésus et à son œuvre sur la croix. À l'ère du Nouveau Testament, Dieu a donné le Saint-Esprit comme un don à ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en l'eau et en l'Esprit. Et le Saint-Esprit est devenu celui qui demeure dans nos cœurs comme notre Maître. Cette œuvre du Saint-Esprit a continué depuis le moment où Dieu nous a sauvés des péchés du monde une fois pour toutes et nous a donné le Saint-Esprit comme un don, jusqu'à ce 21e siècle. Dieu a donné le Saint-Esprit comme un don à ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en la justice de Jésus, en faisant un gage de leur salut. Par conséquent, le Saint-Esprit travaille avec et accompagne le message de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous a donné dans nos cœurs. En conséquence, à partir du moment où nous avons reçu la rémission des péchés, il nous permet de recevoir la compréhension lorsque nous entendons la parole de Dieu. Lorsque nous faisons l'œuvre de prêcher l'Évangile de Dieu dans l'Église de Dieu, nous en venons aussi à réaliser « c'est ce qui plaît à Dieu ». Le Saint-Esprit est celui qui travaille avec ceux qui sont nés de nouveau, leur permettant de porter le fruit de l'Esprit. Le message de l'Évangile concernant la rémission des péchés est absolument nécessaire pour que ceux qui croient en Jésus reçoivent le Saint-Esprit comme un don. Pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu comme un don, nous devons tous reconnaître que Jésus a été baptisé par Jean, que les péchés du monde ont été portés par lui, qu'il a été crucifié et a versé son sang, et qu'il est ressuscité des morts pour devenir le sauveur de ceux qui croient aujourd'hui. Alors, le Seigneur nous accorde simultanément la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous recevons le Saint-Esprit comme un don lorsque nous recevons la rémission des péchés en croyant en la justice de Jésus. C'est la vérité. Nous ne pouvons recevoir simultanément le salut et le Saint-Esprit comme un don qu'en croyant en l'œuvre de Jésus, qui a été baptisé par Jean et a porté les péchés du monde, et en croyant en Jésus comme le Sauveur qui a subi la peine sur la croix. La raison pour laquelle les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas pleinement le Saint-Esprit est qu'ils adhèrent au credo de Nicée. Ils ignorent que Jésus a reçu le baptême de Jean, a porté les péchés du monde et les a effacés. C'est pourquoi nous devons rapidement croire en la justice de Jésus-Christ, le Sauveur qui a porté les péchés du monde par le baptême de Jean et a subi le châtiment de nos péchés sur la croix. Par cette foi, nous devons être sauvés de nos péchés. Alors, nous recevons le Saint-Esprit comme un don. Pierre nous parle de l'Évangile de la vérité par lequel nous recevons la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Regardez le message que Pierre délivre à travers Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le contexte de ce verset est l'événement où le peuple d'Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ, le Messie, et a crié « Crucifie-le ». Cependant, en entendant le sermon de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et furent saisis de crainte et de lamentation, demandant « Frères, que ferons-nous ? » Actes, chapitre 2, versets 1 à 37. À ce moment-là, Pierre leur dit « Vous avez fait cela par ignorance, mais maintenant repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Pierre prêcha avec précision, disant « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes, chapitre 2, verset 38. La vérité de l'Évangile dont Pierre témoigne est que Jésus a reçu le baptême de Jean, a eu les péchés du monde transférés sur son corps, a été crucifié, a versé son sang, et est ressuscité des morts, accordant ainsi la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit à ceux qui croient. Pierre dit que nous recevons la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit en croyant en Jésus-Christ comme le Sauveur. Par conséquent, ceux qui vivent au 21e siècle doivent recevoir la rémission des péchés dans leur cœur et le don du Saint-Esprit en croyant en l'œuvre baptismale de Jésus, en qui Pierre a cru, Jésus qui a reçu le baptême de Jean et a porté les péchés du monde, et en croyant au sang de la croix. Nous pouvons recevoir la rémission des péchés et le Saint-Esprit dans nos cœurs en croyant en l'œuvre du Seigneur, qui a reçu le baptême de Jean, a pris les péchés du monde sur son corps, a été crucifié, a versé son sang, et a dit « Tout est accompli ». Ici, le fait que la rémission des péchés et le Saint-Esprit aient été donnés comme des dons et soient reçus par la foi nous enseigne une vérité importante du salut, même aujourd'hui. Le Saint-Esprit est un don accordé uniquement à ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Par conséquent, nous avons pu recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant en Jésus comme notre Sauveur, et ainsi nous avons pu devenir ceux qui pouvaient recevoir le Saint-Esprit comme un don de Dieu. Le Saint-Esprit est le don de la rémission des péchés que Dieu donne à ceux qui croient en Jésus, qui a reçu le baptême de Jean, a porté les péchés du monde, et est allé à la croix pour payer le prix total du péché. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, telle était précisément la foi de l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit a été donné comme un don avec la rémission des péchés à ceux qui croient au fait que le Seigneur a reçu le baptême de Jean, a pris les péchés du monde sur lui, et a versé son sang sur la croix. Nous devons devenir ceux qui croient que le Seigneur a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et en versant son sang sur la croix est devenu le sauveur de ceux qui croient maintenant. Seuls ceux qui croient au baptême de Jésus et au sang de la croix comme leur salut peuvent entrer dans les rangs de ceux qui sont nés de nouveau. Parce que nous avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs, nous sommes capables de recevoir le Saint-Esprit comme un don. Le Saint-Esprit est un don précieux de Dieu qui n'est accordé qu'à ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la foi. Jésus a reçu le baptême de Jean et a ainsi pris les péchés du monde sur son corps, a été crucifié, a versé son sang, est mort, et est ressuscité des morts, et est ainsi devenu notre Sauveur maintenant. Par conséquent, ceux qui croient en cette œuvre de salut étonnante de Jésus deviennent maintenant ceux qui ont reçu la rémission des péchés et le Saint-Esprit comme un don. Nous devons devenir ceux qui, par la foi en cette parole de l'Évangile du salut, reçoivent la rémission des péchés et le Saint-Esprit comme un don dans nos cœurs. Par conséquent, nous ne sommes plus des pécheurs devant Dieu, mais nous devons devenir des justes qui plaisent à Dieu en croyant en lui. En ce moment même, nous devons demander au Seigneur de nous donner une telle foi. Le Seigneur ne demeure pas dans la foi qui croit au symbole de Nicée. Nous devons savoir et croire que le Seigneur demeure seulement en ceux qui croient qu'il a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et est allé à la croix comme leur sauveur. Par conséquent, si vous sentez maintenant que vous manquez de foi en une telle parole de l'Évangile de la vérité, veuillez vous référer et lire le livre de sermons de Paul Sidjon. Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit? Nouvelle édition révisée. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au site b.j.newlife.org/fr. Le Saint-Esprit est-il venu comme un don dans vos cœurs maintenant que vous croyez en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit? Oui, c'est exact. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit comme un don à ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Par conséquent, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont maintenant devenus celui qui demeure toujours ensemble dans nos cœurs. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Le Saint-Esprit est celui qui demeure toujours avec Jésus. Pierre a dit dans 1 Épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » La foi de l'apôtre Pierre était claire. Jésus a reçu le baptême de Jean et a ainsi pris les péchés du monde sur son corps, a été crucifié, est mort, et est ressuscité, et par cela a donné la rémission éternelle des péchés à ceux qui croient. Nous avons maintenant besoin de la foi que Jésus est devenu notre Sauveur par l'eau et l'Esprit. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. La vérité du salut accompli par Jésus, qui a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et a été crucifié, n'est pas une parole d'évangile donnée uniquement à l'époque de l'Église primitive. Cet évangile est toujours la parole éternelle de salut de Dieu qui s'applique à nous aujourd'hui à l'ère du Nouveau Testament, en d'autres termes, à ceux d'entre nous qui vivent au 21e siècle. Le Seigneur a dit à Nicodème dans Jean, chapitre 3, verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean, chapitre 3, verset 5. Cette parole nous est adressée à tous, même maintenant. Nous devons réaliser dans nos cœurs la parole de vérité que nous devons naître de nouveau d'eau et d'esprit. Cette vérité est la foi qui croit en la parole de vérité que Jésus, par le baptême qu'il a reçu de Jean, a pris les péchés du monde sur son corps et a lavé nos péchés. Par cette foi, nous devons devenir ceux qui ont reçu la rémission des péchés et ont reçu le Saint-Esprit comme un don. Maintenant, nous devons devenir des gens de foi qui croient que Jésus a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, est allé à la croix, a versé son sang, est mort, et est ressuscité des morts, et que ce Jésus est maintenant notre Sauveur. Pierre a dit, « Soyez sauvés de cette génération perverse. » Dans Actes, chapitre 2, verset 40, il est écrit ce qui suit, et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Pierre a dit, « Soyez sauvés de cette génération perverse. » Si vous voulez devenir quelqu'un qui reçoit la rémission des péchés et le Saint-Esprit dans votre cœur, vous devez abandonner la foi qui consiste à croire au symbole de Nicée qui nous a trompés pendant 1700 ans. Et vous devez avoir la foi que notre Sauveur Jésus a reçu le baptême de Jean, transférant ainsi les péchés du monde sur son propre corps, a été crucifié et est mort, et est ressuscité des morts. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Vous devez croire que le Saint-Esprit est celui qui vient comme un don de Dieu dans le cœur de celui qui a reçu la rémission des péchés en croyant au ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean. Dans le Nouveau Testament, Actes, chapitre 2, verset 41 rapporte ce qui suit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Tout comme cette parole le dit, même aujourd'hui vous devez savoir que ceux qui croient au Seigneur qui a reçu le baptême de Jean pour porter les péchés du monde et a été crucifié se lèvent en divers endroits partout dans le monde. Même à notre époque, ceux qui veulent croire en Jésus-Christ comme leur Sauveur doivent abandonner la foi qui ne croit qu'en la croix, telle que présentée dans le symbole de Nicée, et croire en Jésus qui a reçu le baptême de Jean, transférant ainsi les péchés du monde sur son propre corps, a été crucifié et est ressuscité des morts. Ceux qui croient en cette vérité doivent devenir ceux qui croient dans leur cœur que le Seigneur a donné la rémission des péchés et le Saint-Esprit comme un don. À ceux qui croient que le ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean, avec le sang de la croix, est la vérité du salut, le Saint-Esprit vient dans leur cœur comme un don et œuvre avec les croyants. Et si vous êtes encore de ceux qui ne connaissent pas et ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ? Si vous êtes encore de ceux qui ne connaissent pas et ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la responsabilité vous incombe parce que vous n'avez cru qu'en Jésus crucifié sur la croix, tel que présenté dans le symbole de Nicée. Nous devons tous croire en l'œuvre de Jésus qui a lavé nos péchés en étant baptisé par Jean. Et nous devons être de ceux qui croient que, parce que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde par le baptême de Jean, il est allé à la croix comme pris, a versé son sang, est mort, et est ressuscité d'entre les morts pour devenir le Sauveur de ceux qui croient maintenant. Vous devez savoir qu'il y en a beaucoup dans ce monde qui ne croient qu'en la croix, telle que présentée dans le symbole de Nicée, et qui vivent ainsi comme des pécheurs sans que leurs péchés soient résolus. Par conséquent, pour que nous soyons sauvés de nos péchés et que nous recevions le Saint-Esprit, nous avons besoin de la foi qui connaît et croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le salut doit être reçu par la foi qui croit que Jésus a lavé les péchés du monde en les faisant transférer sur lui par le baptême de Jean, et a pris le jugement pour le péché sur la croix à notre place. Vous devez savoir que l'évangile que Jésus a donné à l'humanité est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et non l'évangile de la croix présenté dans le symbole de Nicée. Si vous ne connaissez que Jésus qui a souffert sous Ponce Pilate et a été crucifié, sans connaître le baptême que Jésus a reçu de Jean, vous êtes de ceux qui ne comprennent pas les paroles de Jésus, vous devez naître de nouveau d'eau et d'esprit. La Bible témoigne clairement, elle témoigne que Jésus est devenu notre Sauveur pour nous qui croyons maintenant, en recevant les péchés du monde transférés sur son corps par le baptême de Jean, en étant crucifié, en mourant et en ressuscitant. Par conséquent, nous devons croire ce fait. Nous pouvons savoir et croire par les paroles de la Bible que, parce que le Seigneur a été baptisé par Jean, il est allé à la croix et a versé son sang pour devenir notre Sauveur. Essayez-vous actuellement de laver vos transgressions par une prière de repentance, comme ceux qui se confessent dans l'Église catholique? Cependant, vous ne pouvez pas être lavé de vos transgressions avec une telle foi religieuse. vous devez savoir que vous ne pouvez pas être lavé des péchés de votre cœur par la confession ou une prière de repentance avec la foi qui croit au symbole de Nicée, qui est fait par l'homme. Celui qui a lavé tous mes péchés et les vôtres est Jésus-Christ. Si Jésus n'avait pas pris sur lui les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, n'avait pas été crucifié, n'avait pas versé son sang, n'était pas mort et n'était pas ressuscité d'entre les morts pour devenir le sauveur de ceux qui croient maintenant, nous n'aurions jamais pu recevoir la rémission des péchés. Nous avons reçu la rémission des péchés par la foi qui croit en la parole de l'Évangile selon laquelle Jésus-Christ a porté les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, a été crucifié et ressuscité d'entre les morts. Vous tous, vous devez devenir de ceux qui aspirent à recevoir la rémission des péchés par la foi qui croit en la justice de Jésus. La raison en est que Jésus est devenu le sauveur des pécheurs en recevant les péchés du monde transférés sur son corps par le baptême de Jean, en étant crucifié et en mourant, et en ressuscitant d'entre les morts. Le chapitre 2, verset 41 des Actes nous dit ceci, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Les apôtres, avec la foi dans le Seigneur, qui est devenu notre Sauveur en recevant les péchés du monde transférés sur son corps par le baptême de Jean, en étant crucifié et en ressuscitant d'entre les morts, ont aussi prêché cet évangile à d'autres. La Bible rapporte qu'après avoir entendu cet évangile, la parole de vérité selon laquelle Jésus a porté les péchés du monde en recevant le baptême de Jean et est allé à la croix, 3000 croyants furent ajoutés ce jour-là seulement. Nous devons nous souvenir du fait que les gens en sont venus à croire au baptême de Jésus et au sang de la croix comme l'évangile du salut. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile dans le monde entier en croyant en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si c'est le cas, combien de personnes à notre époque naissent de nouveau, recevant la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur? Seul Dieu le sait. Regardons ensemble le chapitre 2, verset 42 des Actes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Ce verset signifie que les saints de l'Église primitive se sont tous unis et ont mis leurs efforts en commun pour vivre une vie de proclamation de la parole de l'Évangile. Ils recevaient l'enseignement des apôtres, communiaient les uns avec les autres dans la foi, partageaient la nourriture et sont devenus de ceux qui se consacraient à la prière. Ils ont vécu une vie de proclamation de la parole de l'Évangile de la justice de Jésus sur cette terre, et maintenant ils sont retournés au Seigneur et se reposent. Les saints de l'Église primitive ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur en croyant que Jésus est le Sauveur qui a pris sur lui les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a été cloué sur la croix. Et ils ont été accueillis par le Seigneur après avoir vécu une vie de proclamation de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Comme l'époque de l'Église primitive était un temps où les transports étaient peu pratiques, ceux qui prêchaient l'Évangile marchaient à pied pour proclamer la parole de l'Évangile de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, aujourd'hui, nous vivons à une époque où nous proclamons la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier par le ministère de la littérature. Aujourd'hui, de nombreuses personnes au XXe et XXIe siècle sont dans une profonde confusion spirituelle. La raison en est qu'elles ont d'abord connu et cru au symbole de Nicée. Le symbole de Nicée a été établi en 325 après Jésus-Christ, et la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que Jésus a pris sur lui les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est la parole de l'Évangile qui a été établie en 33 après Jésus-Christ. Ainsi, même maintenant, ceux qui croient au symbole de Nicée disent « Je crois en Jésus », mais ils vivent dans un état de péché. C'est parce qu'ils ne connaissent que la croix de Jésus et n'ont pas su que la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est le véritable Évangile du salut. Ceux qui croient au symbole de Nicée disent de leurs lèvres, « J'ai reçu la rémission des péchés », mais comme le péché demeure dans leur cœur, ils sont devenus des gens qui vivent dans la peur de se tenir devant Dieu. Ces personnes aussi, si elles veulent recevoir la véritable rémission des péchés et la plénitude du Saint-Esprit comme en parle la Bible, doivent devenir de celles qui ont reçu la rémission des péchés par la foi dans le Seigneur qui a reçu le baptême de Jean, a pris les péchés du monde, a été crucifié, est mort et est ressuscité. Cependant, aujourd'hui, de nombreuses personnes, après l'établissement du symbole de Nicée, prétendent croire en l'évangile de la croix, mais elles poursuivent leur vie religieuse tout en restant dans un état de péché. De nombreuses personnes, n'ayant pas rencontré le vrai salut, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, vivent comme celles qui n'ont pas reçu la rémission des péchés dans leur cœur. Elles pratiquent une vie religieuse vaine comme les personnes religieuses du monde. Dieu veut que ces personnes se détournent de la foi qui reste dans le symbole de Nicée et retournent à la vraie foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui de nombreuses personnes se rendent dans des centres de prière et de jeûne, essayant de laver leurs péchés par des prières de repentance. Pourquoi cela ? La raison pour laquelle ils jeûnent ainsi est de recevoir la rémission des péchés dans leur cœur. Et c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Ils désirent recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains, mais avec le temps, ils finissent par se rendre compte que tous leurs efforts sont vains. La raison en est que leur foi est une foi religieuse dépendante des émotions. Par conséquent, ils ne doivent plus être de ceux qui croient en Jésus de manière émotionnelle, mais doivent croire que le baptême que Jésus a reçu de Jean, par lequel il a pris les péchés du monde, ainsi que sa crucifixion, sa mort et sa résurrection sont les œuvres pour notre salut, et ainsi recevoir la véritable rémission des péchés dans leur cœur. Par conséquent, nous devons opérer non pas une réforme religieuse, mais une réforme de la vraie foi. Ceux qui veulent accomplir la véritable réforme de la foi doivent devenir ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et a été crucifié, comme leur sauveur. À de telles personnes, le Seigneur a donné la rémission des péchés et le Saint-Esprit comme un don dans leur cœur. Ces personnes existent encore même au XXIe siècle, et ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau qui brillent comme les étoiles dans les cieux. Puisque Dieu leur a donné la rémission des péchés et le Saint-Esprit comme un don, nous aussi devons vivre en suivant le chemin de foi qu'ils ont parcouru. La volonté de Dieu le Père envers nous est claire, que nous devenions le peuple de Dieu en étant sauvés par la foi en Jésus-Christ, qui a reçu le baptême de Jean, a pris les péchés du monde, a été crucifié, est mort, et est ressuscité des morts. Par conséquent, nous devons devenir des gens de foi qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la volonté de Dieu. Nous devons nous souvenir du fait que même à notre époque, ceux qui croient en l'évangile du salut se lèvent en divers endroits et rendent gloire à Dieu. Jésus veut qu'il y ait de nombreux enfants partout dans le monde qui croient en Jésus-Christ, qui a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, a été crucifié, est mort, et est ressuscité, comme leur sauveur. Par conséquent, nous devons devenir ceux qui croient au fait que Jésus a reçu le baptême de Jean, a porté les péchés du monde, et est allé à la croix. Aussi, en tant que ceux qui ont reçu la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit de la part de Dieu, nous devons devenir ceux qui répandent cet évangile dans le monde. Lorsque nous avons cru en la justice de Jésus et avons reçu la rémission des péchés, le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs comme un don. Le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs jusqu'au jour de la seconde venue de Jésus, nous amenant à consacrer nos corps et nos cœurs à la proclamation de l'Évangile afin que nous ne soyons pas souillés par le monde. Par conséquent, à travers le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, nous en venons à ressentir encore plus profondément à quel point la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la vérité de l'Évangile du salut en laquelle nous avons cru, est vraiment étonnante et précieuse. Une chose que nous savons clairement est celle-ci, quand une personne reçoit la rémission de ses péchés, elle doit croire en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il n'y a qu'une seule façon pour nous de recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs. Cette vérité est la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons devenir ceux qui croient en ce fait, que Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean, a pris les péchés du monde sur son propre corps, a été crucifié, a versé son sang, est ressuscité des morts, et est maintenant devenu notre Sauveur. En croyant en cette vérité de l'Évangile du salut dans nos cœurs, nous devenons ceux qui reçoivent la rémission des péchés et le Saint-Esprit en cadeau. Quand nous avons foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est alors seulement que nous devenons ceux qui sont sauvés de leurs péchés et ceux en qui le Saint-Esprit demeure. Dans la parole de Dieu que nous croyons et prêchons, est clairement contenue la parole de vérité qui vous a sauvé des péchés du monde. Par conséquent, nous devons croire fermement la vérité que nous pouvons recevoir la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit au sein de la foi de croire en la parole de Dieu. Quand nous demeurons dans cette foi, nous jouirons pleinement des bénédictions de Dieu. Cependant, aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde pensent, si je crois en la croix de Jésus, je serai sauvé, puis crois, je dois recevoir l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Une telle foi n'est pas la vraie foi dont parle la Bible, mais simplement une foi superstitieuse que l'on trouve couramment dans les religions du monde. Par conséquent, nous devons opérer une réforme de la foi dans nos cœurs, une foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons savoir que Dieu est celui qui donne le Saint-Esprit en cadeau à ceux qui ont reçu la rémission des péchés, et nous devons devenir ceux qui croient en ce fait dans nos cœurs. C'est parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui vient dans les cœurs de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Jésus a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui-même les péchés du monde, a versé son sang sur la croix, est mort, et est ressuscité. C'est dans les cœurs de ceux qui croient en ce Jésus comme leur Sauveur que le Saint-Esprit vient. Le Seigneur est toujours celui qui donne la rémission des péchés et le Saint-Esprit en cadeau à ceux qui croient en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons savoir clairement ce que signifie croire au symbole de Nicée à notre époque, et la foi de croire en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donnée par le Seigneur doit prendre racine dans nos cœurs. Nous devons devenir ceux qui croient en l'Évangile, que Jésus a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui-même les péchés du monde, et a été crucifié, dans nos cœurs maintenant, et ainsi opérer une réforme de la foi. Aussi, en tant que ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons vivre dans ce monde en espérant le jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur et en attendant la seconde venue du Seigneur. Nous tous, en tant que vrais réformateurs de la foi, devons accomplir la mission d'être des évangélistes de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, transformant les cœurs des gens dans les jours restants de nos vies. Je conclurai le message d'aujourd'hui ici. Alléluia! Nous rendons grâce par la foi à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés des péchés du monde et nous a donné la rémission des péchés et le Saint-Esprit en cadeau. Alléluia. Amen.